Chapitre 5. Arrêta.
Agacé par les propos machos de Merlin, Fergus avait rejoint notre groupe, il me confia. Malheureusement, il y a beaucoup trop de garçons comme Merlin. Ils n'ont jamais réfléchi à ce qu'endurent les femmes. Moi, j'y ai réfléchi un peu et je suis devenue féministe. Le féminisme, c'est pas plutôt un truc de fille, ça ? Demande Magali, qui s'était rejointe à la conversation. Les pensées n'ont pas de sexe, réagit Fergus. J'appréciais le fait qu'un garçon soit venu spontanément vers nous, mais nous demandait si celui-ci serait capable de jouer à quoi que ce soit, tant il se prenait au sérieux. Roxane l'écoutait en tournant les pages d'un magazine. En général, je n'aime pas qu'on parle de sexe, c'est vulgaire. En plus, tu frimes avec des mots compliqués, mais ça ne marchera pas avec nous. On est contre les frimeurs. Les mecs sont tous des frimeurs de toute façon, ajoute Elsa. C'est bien vrai. En réalité, ils sont juste bons à s'étaler sur le canapé, les doigts de pied en éventail pour regarder la télé en mangeant des chips goût barbecue, ajouta Léonie. Fergus s'assit sur le banc, l'air dépité. Maintenant, c'était lui qui avait besoin d'aide. J'étais sidérée par ce que je venais d'entendre et j'avais du mal à répondre à quoi que ce soit. Quand il s'agissait d'évoquer le sexe opposé, les filles ne valaient donc pas mieux que les garçons. Opposé, le mot était sans doute mal choisi. Différent, certes, nous l'étions, mais opposé, cela me paraissait exagéré et dangereux d'utiliser un tel adjectif. C'était peut-être ce mot-là qui avait été à l'origine des conflits entre les genres. Prêtait sans doute jamais assez d'attention au sens des mots qu'on utilisait. Parfois, il suffisait seulement de trouver le bon mot pour tout arranger. Je proposais à Fergus que l'on dise les sexes complémentaires plutôt que les sexes opposés. Il acquiesça. Mais Roxane, qui n'avait toujours pas levé la tête de son journal, s'exclama. Arrêtez de parler de sexe, bon sang! Oh, tu sais, tu te fatigues pour rien. Ma sœur dit que les garçons sont des obsédés. Il n'y a rien à faire, on ne les changera pas, s'exclama Léonie. J'avais beau craindre l'austérité de Fergus, j'étais sur le point bien d'accord avec lui. La plupart des gens ne réfléchissaient pas assez à ce qu'ils faisaient ni à ce qu'ils disaient. Fergus me fixait. Il attendait toujours que je dise quelque chose. Je relatais alors comme l'avaient fait les autres, ce que j'avais entendu à la maison, mais j'essayais d'utiliser mes mots à moi et de ne pas alourdir ma réponse de trop de sottises. Je ne voulais pas avoir l'air d'un perroquet. Les féministes aimeraient faire disparaître les inégalités entre les hommes et les femmes dans le travail et dans la vie de tous les jours, expliquai-je. Fergus est des nôtres. Vous ne devriez pas le rembarrer comme ça, conseillai-je à mes amis. Fergus m'applaudit discrètement. Miranda le quittait rarement des yeux. Elle le remercia timidement de son soutien. Elle aurait bien voulu qu'il la remarque, mais il passait son temps à me regarder. En sortant de l'école, il voulut me raccompagner chez moi. Je refusais sa proposition, sous prétexte que je souhaitais faire une halte à la pâtisserie que tenait maman depuis quelques semaines. Ce que je fis d'ailleurs. J'étais impatiente de lui raconter que l'Écossais de ma classe était féministe, mais au fond, je voulais surtout fuir Fergus pour éviter que Miranda s'imagine que je lui volais son prince. Miranda et moi étions toutes les deux nouvelles dans l'école. Depuis, elle collectionnait comme moi les chaussettes rayées et comme moi aussi, elle détestait la confiture d'orange. J'étais contente de la retrouver chaque matin dans la classe. Pour rien au monde, je n'aurais voulu la blesser. Je n'avais aucune intention d'être l'amoureuse de Fergus. Contrairement à la plupart des filles dans cette école, les histoires de cœur ne m'intéressaient pas. Cependant, je voulais pas perdre l'amitié de l'Écossais. Je le trouvais audacieux et différent des autres. Féministe ? S'étonna maman en déposant les tartelettes multicolores dans la vitrine réfrigérée. Est-ce que Fergus sait vraiment ce que ça signifie ? Je voulais toujours que maman trouve mes amis exceptionnels. J'avais l'impression alors d'avoir acquis une qualité supplémentaire, une médaille des galons. Bien décidée à la convaincre des mérites de ma nouvelle connaissance, je répondis. Fergus a eu du courage de prendre mon parti contre Merlin et de passer dans le clan des filles. Il maîtrise le sujet du féminisme mieux que quiconque. Maman parut convaincue. Elle me tendit un éclair au chocolat et me demanda si j'allais inviter ce garçon à la maison. Elle m'incita ainsi à me faire de nouveaux amis parce que la distance qui nous séparait de la ville où nous habitions l'année précédente me condamnait désormais à ne revoir que très rarement les enfants avec lesquels j'avais passé la première partie de mon enfance. « Si je l'invite, je vais devoir Miranda, » répondis-je. « Invite-la, elle aussi !» Maman avait souvent réponse à tout. Mes deux copains ne tardèrent pas à venir passer l'après-midi chez nous. Et maman, qui avait entreaperçu Fergus en rentrant de la pâtisserie, me confirma qu'il mérite effectivement nos louanges, ce qui fit briller davantage les médailles de reconnaissance qui décoraient mon âme. Ce jour-là, Fergus eut le loisir d'apprécier Miranda à sa juste valeur, et je me réjouis de ne plus être son unique intérêt. Après ce goûter, Miranda me confia que j'étais une véritable amie. « C'est un pléonasme !» lui fis-je remarquer. « Une amie non véritable ne peut pas être une amie. » Miranda sourit. Elle ne savait sans doute pas ce qu'était un pléonasme, mais apparemment, elle s'en fichait. Seul Fergus occupait maintenant joyeusement son esprit. L'amour prenait décidément beaucoup trop de place dans la vie des gens pour que je m'y intéresse. C'était comme les réseaux sociaux. Mon frère m'avait conseillé de ne jamais m'y inscrire. Je voulais avoir le temps de faire des choses intéressantes quand je serais adolescente. Pour ne pas tomber dans ces pièges mangeurs de temps, j'avais donc décidé de grandir sans les réseaux sociaux et sans l'amour. De retour en classe, Fergus conserva sa place du côté des garçons. Il était bien tenté de se rapprocher de Miranda, mais avec Madame Lucien, il était inutile d'envisager le moindre changement. Pour elle, changer aurait alors signifié briser le confort léthargique de sa routine. Madame Lucien ne voulait surtout pas qu'on la réveille quelques mois avant sa retraite, alors qu'elle s'entraînait déjà à ne plus rien faire. Comme Merlin était assis derrière l'Écossais, ce dernier reçut de nombreux coups de pied dans sa chaise et griffonnait sur de minuscules bouts de papier des petits mots provoquants tels que « T'as pas mis ta jupette aujourd'hui, fillette ?» Bien sûr, la plupart des garçons suivaient leur chef et voyaient Fergus d'un œil négatif depuis qu'il avait pris mon parti. Un traître, un lâche. Voilà ce qu'il était selon eux. À l'inverse, le clan des filles commençait à apprécier l'Écossais. À chaque récréation, Fergus nous donnait des conseils pour ne pas nous laisser faire, ni avoir par les garçons. C'était une sorte d'agent secret qui nous dévoilait les ruses et les pièges du clan adverse. Grâce à lui, nous avions en outre appris de nouveaux mots. Harcèlement, discrimination, parité, mais surtout misogyne que nous utilisions désormais régulièrement pour qualifier Merlin. Ceux qui, comme lui, exprimaient du mépris pour les filles étaient également des misos. J'ai appris que la différence entre un miso et un macho était assez faible. Le miso déteste les filles de la même façon qu'il pourrait détester la crème au beurre ou les choux de Bruxelles, nous expliquait Fergus. Tandis que le macho a besoin des filles pour se faire valoir. Comme mon tonton Gabriel, lançais-je tout en sachant que personne ne le connaissait. Mon tonton pense que chaque sexe a un rôle bien défini. Les hommes sont là pour réfléchir, gagner de l'argent, aller au travail et faire la guerre, et les femmes, elles, doivent tenir la maison, éduquer les enfants et seconder les hommes. Grâce à Fergus, Mélanie découvrit aussi qu'il n'était pas normal que son père interdise à sa mère de travailler. Zora s'étonna d'apprendre que certains maris se chargeaient des tâches ménagères à la maison. Et Sabine, qui était pourtant une élève cultivée, ouvrit grand les yeux quand notre amie lui assura que bien souvent, pour un travail identique, les femmes ne reçoivent des salaires inférieurs à ceux des hommes. « Mais ma mère gagne plus que mon père !» s'exclama-t-elle. « Elle est députée, il est fleuriste. » Un travail identique, répéta Fergus. Les députés hommes et femmes gagnent le même salaire. Il n'avait jamais envisagé que sa mère ait pu être une exception qui confirmait la règle. Chaque soir, mes parents, enchantés par le récit de ma journée, se faisaient un plaisir de me faire partager leurs connaissances en matière de féminisme. Je me chargeais ensuite d'ajouter de l'eau au moulin de Fergus en exposant par exemple ce que j'avais appris chez moi sur la condition des femmes dans divers pays du monde. Au Liban et au Maroc, les femmes ne peuvent pas hériter des biens de leurs proches. C'est un peu comme si elles n'existaient pas, comme si elles ne faisaient pas vraiment partie de leur propre famille. Elles sont juste nées pour être utiles à leur mari, leur frère, leur père. Je trouvais cela si terrible que ma voix se mit à chevrotter. Fergus ajouta. En Iran, c'est aussi très difficile. Certaines études et certains métiers sont inaccessibles aux femmes. Il n'y a pourtant aucune raison qu'elles aient moins de choix que les hommes. Mais pourquoi est-ce que leur interdit tout ça ? Nous interrompit Mélanie. Et pourquoi mon père a interdit à ma mère de travailler ? Le silence s'installa dans notre groupe. Qu'est-ce qui pouvait bien pousser les hommes à rabaisser ainsi les femmes, à les considérer comme des faibles et des moins que rien ? Fergus et moi étions incapables de répondre à cette question. Contrairement à ce que j'avais avancé, maman n'avait pas réponse à tout. Car lorsque je lui demandais son avis, elle s'embourba dans des explications peu claires. Puis finit par solliciter mon père. Il se gratta la tête et fixa la fenêtre du salon pour quelques instants avant de répondre. L'éducation, c'est la réponse et la solution à la plupart des problèmes de société. Quand tu as appris à faire quelque chose de travers, tu le feras toujours de travers. À moins que quelqu'un ne te rééduque. J'étais assez satisfaite de cette proposition, mais à l'école, Fergus suggéra que l'on recueille d'autres avis d'adultes afin de confirmer les dires de mon père. Il interrogea donc la maîtresse. « En voilà une demande de sortie de nulle part !» déclara Madame Lucien en ajustant ses grosses lunettes. L'épaisseur de ses verres qui l'empêchait de voir ce qui se tramait devant ses yeux depuis la rentrée. « N'est pas sortie de nulle part. C'est un sujet plus que d'actualité dans la classe. Et aux quatre coins de la terre d'ailleurs, répondit Fergus fièrement. » Madame Lucien sourit et se mit de nouveau à nous raconter ses souvenirs. Sa mère avait été membre du MLF, le Mouvement de Libération des Femmes, en 1970. Elle faisait partie des 9 femmes qui avaient déposé une gerbe sous l'arc de triomphe à la gloire de la femme du soldat inconnu. Madame Lucien avait aidé sa maman à peindre une banderole sur laquelle était écrit « Il y a plus d'inconnu que le soldat inconnu, sa femme ». À part Sabine et Jean-Hervé, personne dans la classe ne savait qu'on honorait chaque année, à Paris, un soldat inconnu sur l'arc de triomphe, si bien que l'histoire de la maîtresse nous parut incompréhensible jusqu'à ce que Sabine nous apporte quelques précisions. Comme je la félicitais de son érudition, elle lança à la classe. Ce n'est pas difficile pour moi. À cause de son travail, ma mère me bassine avec l'histoire politique et les cérémonies à longueur de temps. Du coup, je peux vous dire qu'il est plutôt connu, le soldat inconnu. Sa réponse provoqua l'hilarité générale. Madame Lucien tenta de calmer la classe en enchaînant. Le féminisme du temps de ma mère n'avait rien à voir avec celui d'aujourd'hui. De nos jours, même les plus soumises des femmes se proclament féministes. Elles pensent qu'il suffit de faire passer les hommes pour le grand méchant loup pour devenir féministe. Ça devient ridicule. Il faut bien qu'elles se défendent, protestai-je. Je suis d'accord, Arita. Mais si l'on passe son temps à dire aux hommes qu'ils sont les méchants forts et que nous sommes les gentils faibles, le monde va évoluer dans ce sens. Le féminisme du passé conduisait simplement à éduquer les garçons de la même façon que les filles et vice-versa. Je trouve ça complètement nul, objecta Aline. Une élève en général plutôt réservée. On ne peut pas demander à la même chose aux deux sexes. Par exemple, les hommes ont souvent de bien trop gros doigts pour faire de la broderie. Et la plupart des filles n'ont pas la force qu'il faut pour être des ménageurs. La même éducation signifierait que l'on est tous capables de faire les mêmes choses. C'est idiot, non? La même éducation signifie que l'on offre les mêmes possibilités aux garçons et aux filles. Chacun a le choix de choisir ensuite ce qui lui convient, précisa la maîtresse. La discussion battait son plein. Madame Lucien semblait soudain retrouver un regain d'énergie. Fergus, Mélanie, Jean-Hervé, chacun avait son mot à dire. Même Merlin qui se plaignit alors que l'on ne porte pas plus d'attention aux garçons. Mais soudain, il se permit d'interrompre la maîtresse, l'air exaspéré. Madame, on peut arrêter de parler des problèmes des filles, s'il vous plaît? Les filles ne sont jamais contentes. Dès qu'elles peuvent râler, elles râlent. Et toi, Merlin, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Demanda Madame Lucien. Je râle, mais moi j'ai le droit. Et pourquoi les filles, elles n'auraient pas le droit? Parce que ce ne sont rien que des filles. Tu réalises ce que tu es en train de dire, Merlin? Se fâcha la maîtresse. C'est très grave de se comporter ainsi. Qu'est-ce qu'en pense ta maman? Merlin se tut et baissa la tête. Tout à coup, il ne ressemblait plus au macho que j'avais connu jusqu'ici, mais plutôt à un toutou abandonné. Son regard s'était rempli de tristesse et ses doigts s'entremêlaient nerveusement.